J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes. Dans la pluie. Il est temps de mourir.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma et avec un grand C, parce que là finalement avec un magnifique extrait issu de Blade Runner, le fameux monologue de Rutger Hauer à la fin, élément magnifique d'ailleurs improvisé par l'acteur. Et ça nous permet donc de rebondir et de parler de notre émission, car on va parler finalement donc de Philip K. Dick, ses adaptations cinématographiques et même au-delà, parce qu'on va voir que K. Dick a une importance absolument inimaginable dans le milieu du cinéma. Et avec moi, j'ai Cyril. Comment tu vas, Cyril ?
Très bien, et toi ?
Eh bien, écoute, ça va super, super bien. Donc, forcément, on va revenir donc sur le parcours de K. Dick, aussi sur le parcours des films chaotiques de K. Dick au cinéma, parce que niveau chaos, ça va l'être. Ouais. il y a beaucoup de choses à dire. Et on reviendra forcément comment définir le terme dickien au cinéma. Alors, avant de commencer cette émission, forcément, il faut parler un petit peu plus en profondeur de Philip K. Dick. Donc, c'est un auteur américain. Donc il est né, donc, son nom Philip Kindred Dick, donc le cas c'est Kindred. Donc c'est un auteur américain donc, de romans, de nouvelles et d'essais de science-fiction, né le 16 décembre 1928 à Chicago dans l'Illinois. Et d'ailleurs il est mort le 2 mars 1982 à Santa Ana en Californie. Voilà. Alors c'est vrai qu'il a grandi... Ah pardon, tu voulais dire quelque chose ?
Non, il est mort à peu près au moment où est sorti d'ailleurs...
Blade Runner, trois mois après, d'où le film est en hommage directement envers l'auteur. Ouais. Alors c'est vrai qu'en fait... K. Dick a un parcours assez atypique, disons-le très clairement, dans le milieu littéraire et même dans sa vie tout court.
Ouais, alors ça, j'en suis pas tout à fait certain. Ou il faudrait peut-être nuancer aux États-Unis. De toute façon, la science-fiction est un genre très mineur.
Oui.
C'est vraiment du divertissement. Et dans les années 50, où Dick écrit l'essentiel de ses nouvelles. La science-fiction fonctionne par pulp, magazine.
C'est dans les magazines pulp.
Magazines pulp. Et ça, c'est vraiment fait quasiment pour les enfants. C'est très dévalorisé culturellement parlant.
Oui, c'est vrai. On est contrairement à Asimov quand même, qui est rentré directement, on va dire, dans le grand bain de la littérature. Il n'est pas totalement entré dans le milieu pulp. K. Dick, lui, est directement entré dans le pulp.
Asimov, c'est un peu avant aussi. Les pulp, ça a vraiment marché dans les années 40. Dans les années 40. Il y avait une centaine de titres mensuels. Certains publiaient 1 million d'exemplaires. Donc, c'était vraiment un énorme écosystème qui permettait aux écrivains de vivoter.
Oui. Et ce que l'on peut dire, c'est que Dick, en fait, est arrivé peut-être au pire moment du pulp, parce que finalement, c'était
le moment où ça
s'effondrait. Voilà.
C'est 53 quand Dick publie sa première nouvelle. C'est peut-être 51, mais très vite, il n'y a plus que 30 titres.
C'est ça.
Arrivé dans les années 60, il n'y en a plus que 5. Donc Dick arrive à vivoter, mais il est obligé de se droguer comme un malade. Il est obligé de se doper pour sortir.
Il prenait notamment des doses d'amphétamine pour continuer à travailler, en fait.
À travailler, oui. Il sortait, mais en même temps, il sortait 5... il arrivait ainsi à publier 5 nouvelles par mois à certaines périodes, ce qui est quand même monstrueux. Et des nouvelles qui étaient reconnues par les autres auteurs. Quoi.
Ouais, exactement. Comme on le dit, donc en fait, c'est vrai qu'il a, un gros panel de bouquins, un gros panel d'œuvres. Il a une dimension imaginaire en fait assez vaste, assez immense. Et contrairement d'ailleurs à certains qui lorgnaient plus sur l'art d'SF, lui va ajouter quand même à la base dans ses bouquins un peu plus de fantasy, d'une certaine manière.
Oui. Il commence de façon comme tout le monde à écrire des nouvelles qui se passent dans l'espace, avec des guerres, avec l'armée. Très antimilitariste.
Oui.
Ce sont les années 50.
Et il est très politiquement engagé, hein, disons-le très clairement.
Oui, énormément. Mais surtout, il est nourri peut-être contrairement à beaucoup d'autres auteurs de science-fiction de l'époque, il est nourri de littérature contemporaine. Il a lu Joyce, il a lu Kafka, il a lu, il est très influencé, très étrangement, par Proust. Et il a lu énormément de philosophie également, et ça se ressent, ça nourrit vraiment ces nouvelles qui ont une très grande densité. Et je pense que c'est ça qui a plu et qui lui a permis de se distinguer.
Ouais, l'un des gros éléments de frustration aussi de Philip K. Dick, c'est qu'à la base, il voulait être plus un auteur dit classique. Et c'est seulement ces nouvelles, ces romans de science-fiction qui ont été choisis et publiés, en fait.
Oui, il a publié qu'un seul roman de littérature, entre guillemets, de littérature blanche, Confession d'un Barjot, qui a aussi été, malheureusement,
adapté en France.
Adapté par des Français, malheureusement.
Réalisé par Jean Bovin.
Et c'est effectivement. Mais c'est, on en revient au même point, c'est que la littérature de science-fiction étant très dénigrée, pour lui, être écrivain, c'est être écrivain de littérature. Et aucun de ces scénarios n'ont été, enfin aucun de ces scripts, aucun de ces manuscrits n'ont été acceptés par les éditeurs, sauf un. Et puis, au moment de son plus grand succès, Le Maître du Haut-Château, au début des années 60.
62,
oui. Où il a reçu le prix Hugo, donc c'est la plus grande consécration pour un auteur de science-fiction. Tous ses manuscrits de littérature générale lui ont été renvoyés. Donc c'est à la fois un échec absolu en tant qu'écrivain, il a très très mal vécu, et en même temps la consécration. Et c'est à partir de ce moment-là où il va faire des romans de science-fiction beaucoup plus personnels, où il va réussir à mêler ce qu'il voulait faire avec ses romans de littérature générale et à le mêler avec ses éléments de science-fiction. Mais alors la raison pour laquelle sa littérature n'a pas fonctionné, c'est que c'est un très mauvais écrivain. Il faut quand même le dire, c'est un très mauvais écrivain. Il n'a pas de style, mais ça fait de lui un très très bon écrivain de science-fiction pour ce qu'il fait, puisque cette espèce de platitude rend très concret les hallucinations, les délires qu'il met en scène.
Surtout qu'en termes de délire, il va toujours rapprocher aussi beaucoup. C'est toujours un milieu de science-fiction, mais il y a toujours un certain raccordement avec la réalité. Alors certes, notamment par exemple, à vouloir parler d'un contexte social de sa période à travers une autre période dans un bouquin, ou voire même encore travailler un petit peu plus sur des éléments, par exemple, futuristiques. Et on remarque quand même qu'il est assez précurseur sur pas mal de développement dans ses livres, notamment par exemple sur les univers virtuels, sur le big data, la société de surveillance ou encore le fantasme transhumaniste. C'est des éléments qui sont très très mis en place dans l'œuvre de K. Dick.
Ouais, c'est un peu disséminé pour certains éléments, mais il est clairement un précurseur du cyberpunk.
Oui.
Le cyberpunk va exploser
dans les années 80.
D'ailleurs, un des plus grands écrivains, le neuromancer.
J'ai oublié son nom.
J'ai oublié son nom également. Mince. Bref, les écrivains de cette vague-là, dans les années 80, quand ils vont voir Blade Runner, ils vont dire, mais c'est exactement ça que j'avais en tête en écrivant William Gibson.
William Gibson, c'est
exactement ça. Et on voit ces éléments-là, enfin, dans Ubik, tout à fait là-dedans, enfin, la manière dont la technologie va créer des univers façonnés par l'esprit des individus et donner le corps aux pensées des gens autour d'eux et les faire vivre dans une hallucination technologique, effectivement, ce sont des choses qui sont déjà présentes chez lui. Et aussi la domination absolue des entreprises.
Oui, du corporatisme, en fait.
Ouais.
Chose que l'on voit forcément dans pas mal de ses œuvres, et notamment au cinéma aussi. On peut penser forcément à Blade Runner avec l'entreprise Tyrell. C'est une figure phare de la contre-culture, Philip K. Dick. C'est un auteur anti-institutionnel, d'une certaine manière. La plupart de ses œuvres sont, qu'on peut catégoriser en gros guillemets, de underground, est finalement en fait devenu culte à travers le temps, notamment par le prisme du cinéma. On a eu donc les adaptations notamment en grande partie donc de Blade Runner, de Minority Report, ou encore Scanner Darkly. On a eu Total Recall, et c'est quand même réalisé notamment par exemple donc, le premier par Ridley Scott, Minority Report par Spielberg, Scanner Darkly, Richard Linklater, ou encore Total Recall, Paul Verhoeven. Donc c'est quand même quatre réalisateurs extrêmement cotés, et aussi qui ont des visions totalement différentes de leur propre vision, enfin de leur propre matière au rapport au cinéma.
Ouais, ils font des films très 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 différents. Certains en prenant plus de liberté que d'autres. Linklater a essayé de coller au plus proche du texte, mais on voit que Dick produit pas tellement des œuvres qui façonnent ou qui dirigent.
C'est pas des œuvres matrices.
C'est pas des œuvres matrices. Il donne des matériaux bruts. Et après, c'est en fonction des possibilités techniques, en fonction de ce que les réalisateurs veulent faire, ils peuvent faire de Dick ce qu'ils veulent, d'une certaine manière.
Et c'est ça, en fait. Et c'est ce que l'on peut voir aussi avec, forcément, la majorité des œuvres récentes, aussi adaptées par Dick, qui sont dénuées de toute substance, en fait. On pense notamment donc, à Paycheck de John Woo,
nul.
À Next de Lee Atamaori.
Nul.
Voilà, ou Passengers, également.
Nul.
Voilà. C'est juste des films qui vont reprendre juste un peu l'idée de base derrière tous ces bouquins, mais forcément, on va enlever toute la substantifique moelle de Dick.
Ouais, parce que à part Blade Runner qui est tiré d'un roman, donc il y a quand même beaucoup de substance.
Ouais.
Tous ces films sont tirés de nouvelles. Et voilà. les nouvelles de Dick, enfin, j'ai dit que c'est un mauvais écrivain.
Elles sont assez courtes. Hein, ouais.
Elles sont courtes, mais c'est un très bon écrivain de nouvelles en science-fiction. Les nouvelles sont courtes. Il y a une chute qui est inattendue, qui est souvent drôle. Et ce qui intéresse les producteurs dans ces nouvelles, c'est la, on va dire peut-être la simplicité du matériau.
C'est
une
ça.
Scène très forte. Enfin, dans Next, on peut penser à la scène où le personnage principal qui arrive à voir l'avenir peut échapper à ses poursuivants à la seconde près. On se dit ça peut faire une scène de cinéma absolument géniale. Sauf que derrière, il faut construire un scénario.
Voilà.
On ne peut pas reprendre la chute telle qu'elle est. On ne peut pas reprendre le pessimisme général de Philip K. Dick tel qu'il est. On ne peut pas reprendre son antimilitarisme, ses idées telles qu'elles sont. Donc, il faut construire un scénario qui soit suffisamment sexy pour le producteur, pour qu'il puisse accepter de mettre les ronds. Quoi. Et c'est une catastrophe.
C'est comme Paycheck aussi. Faire une fin issue du bouquin. Donc, Paycheck, le film de John Woo, c'est donc dérivé de la nouvelle La Clause du Salaire,
ouais.
qui a une fin assez surprenante, on va dire, c'est comme
totalement
ça dans le bouquin,
délirante.
Et qui est impossible à faire au cinéma.
Impossible à faire, ce serait beaucoup trop ridicule.
Oui.
Ce serait beaucoup trop ridicule. Je sais pas si on raconte.
On peut raconter la fin. Je
donc,
pense que peu de personnes ont déjà vu Paycheck de John Woo.
De toute
et
façon.
Et peu de personnes ont envie de voir Paycheck de John Woo aussi.
De toute façon. Et il y a beaucoup d'autres nouvelles intéressantes à lire de toute façon aussi. Donc, dans cette nouvelle-là, un homme a travaillé pour une très grande entreprise, mais il s'est fait effacer la mémoire pour ne pas garder souvenir des choses. Normalement, il doit toucher un salaire mirobolant pour la chose. Il se retrouve avec quelques objets qui n'ont aucune valeur. Et ces objets vont être comme un jeu de piste pour lui, pour remonter exactement la chaîne des événements, pour remonter l'activité qu'il a eue et qu'il a oubliée. Et à la fin, il se retrouve face à une personne qui le menace d'une arme, qui a un objet dans la main, il a exactement le même. Et l'autre dit, non mais tu peux pas l'avoir, c'est moi qui l'ai. Et on voit un trou apparaître dans le plafond, une espèce d'énorme pince à épiler, retirer l'objet des mains de la personne qui menace le héros. Et donc là, on voit que c'est lui qui agit directement sur le futur, qui prend les objets aux différents moments pour les mettre dans un sachet plastique et se les donner après. Impossible à faire. Enfin, mais en même temps, c'est typiquement de Dick, on en viendra quand on développera les thèmes. C'est que là, l'intervention d'homme sur le monde, l'intervention quasiment magique d'homme sur le monde pour le transformer,
oui.
jette une suspicion sur l'échelle à laquelle on vit. Est-ce qu'on vit vraiment dans une boîte à chaussures, comme ça se passe très certainement sur le bureau du personnage voilà. quand il bosse? Est-ce qu'on vit dans un univers de poche, comme ça arrive souvent? Est-ce qu'on peut... Enfin, ça jette un doute, et en même temps, ça fait rire. Et ça, c'est impossible à faire au cinéma, malheureusement.
C'est absolument compliqué, et même d'une certaine manière, surtout dans le cinéma américain, dans le cinéma occidental, d'empêcher toute cette logique, en fait. Quand on part un peu trop loin, en fait, surtout quand on veut faire du cinéma grand public, on a conscience, surtout pour la part des producteurs, donc de ne pas vouloir dériver un peu sur des visions, on va dire, complètement psychotropes, comme le faisait très souvent Dick, d'ailleurs, dans ses nouvelles. Hein. Il faut le signaler, Dick avait une propension à prendre des drogues assez phénoménale, donc c'est pas pour rien aussi qu'il a eu un AVC assez jeune et qu'à un moment donné, il est mort.
Ouais, oui, alors par contre, il prenait assez peu de LSD,
alors, oui,
de choses qui faisaient halluciner. Ça, c'est clairement quelque chose... pas du tout quelque chose qu'il faisait, mais il a eu des crises d'angoisse dès l'adolescence, il était suivi par des psychiatres, il prenait de toute façon des drogues qui ont altéré sa perception, il a eu une crise psychotique à
durant
la fin,
sa jeunesse, durant sa jeunesse, on lui avait diagnostiqué à la base une schizophrénie qui n'était pas vraiment le cas, mais il avait toujours une propension en fait, à avoir une certaine paranoïa ambiante, d'ailleurs Beaucoup de personnes qui le côtoyaient disaient aussi qu'il avait toujours l'impression qu'il était suivi par le FBI, par les bureaux, par ses tendances politiques, mais aussi parce qu'il n'arrivait jamais à sortir ses bouquins. Donc, il rejetait un peu la faute aux autres aussi, d'une certaine manière. Il avait notamment aussi également reproché à ses parents d'avoir laissé mourir sa sœur jumelle de quelques semaines. Ouais. Donc, il avait toujours aussi un rapport très tendancieux, en fait, avec les autres. Oui, et c'était une personne qui était très enfermée sur elle-même. Et c'est pas pour rien aussi qu'il a eu de nombreux divorces et des histoires comme ça un peu problématiques.
Ouais, alors le côté ermite, oui, bien entendu. Le côté très solitaire, très paranoïaque, ça c'est une évidence. Après, je pense que ces hallucinations viennent de toute façon d'un terrain qui est de toute façon fertile à ce genre de choses. Et puis... Il s'est détruit la santé, je pense qu'il s'est détruit l'esprit, mais il a eu de vraies hallucinations, quoi.
Oui.
Là-dessus, c'est clair. Mais, les médias arrivés dans les années 70, quand il a commencé à être très célèbre, ont forcé le côté drogue et psychotrope parce que c'était l'époque.
Oui.
C'est l'époque du LSD, c'est l'époque du milieu hippie, c'est comme ça qu'on a voulu le voir. Et je pense que ça a aussi joué d'une certaine manière sur la manière dont il a pu plaire aux... Peut-être au producteur, quoi.
Oui, clairement. Mmh. Et d'ailleurs, il avait fait une petite conférence à Metz en 77, notamment c'était au moment de la sortie de son livre Substance Mort. Et il explique d'ailleurs, sur des fans absolument ébahis, sur ses croyances profondes d'ailleurs, qu'il avait pris du LSD qu'une seule fois. D'ailleurs, l'expérience était révélée désastreuse. Il expliquait donc, je cite, « Mes enfants, j'ai été en enfer et j'ai mis 2000 ans à m'en sortir en rampant. » Donc, ouais. ça montre aussi que c'est un bonhomme compliqué. Et forcément, il a voulu vraiment tout retranscrire, je pense, dans ses bouquins, d'une certaine manière.
Oui, alors...
Même si c'est rapport, plus complexe que
son
ça.
Son rapport très délicat à la réalité se retrouve de toute façon dans toutes ses nouvelles et ses romans. Après la grande crise psychotique des années 70, où il a cru être un Romain du deuxième siècle, envoyé dans le futur pour être un écrivain de science-fiction, pour être Philip K. Dick, ça, il l'a traduit vraiment dans ses tout derniers romans.
Oui.
Dont un a fait l'objet d'une adaptation désastreuse. Mais voilà, ces romans-là sont vraiment ceux qui se rapprochent le plus de ce qu'il essayait de faire en termes de littérature générale. Elles sont vraiment centrées sur cette crise-là de la réalité et de la religion, du rapport au sacré.
Oui, on est sur une profonde crise existentialiste de toute manière.
Oui, il était persuadé. Enfin, il était quand même persuadé qu'un satellite lui envoyait des informations par rayon.
Oui.
Pendant son sommeil, donc je veux dire, là, on était quand même assez grave. Ouais.
Exactement. Et cependant, quand même, à Hollywood, ça a été un mec qui a surtout appelé Blade Runner, en fait, à montrer à quel point, en fait, il avait une influence un peu partout et que forcément, beaucoup d'auteurs vont s'inspirer, voire même le piller à Hollywood. Alors, bon, il y a eu d'autres adaptations, notamment, on peut parler également de Truman Show, qui a été une adaptation de la nouvelle Le Temps désarticulé. Par exemple, Planète Hurlante de Christian Duguay, d'après la nouvelle, donc Le Nouveau Modèle.
En 95, c'est
ça ? Voilà, exactement, en 95. Mais par exemple, d'autres films de science-fiction, dont ils se sont inspirés de K. Dick sans forcément acheter des œuvres, comme par exemple Bienvenue à Gattaca, ou encore même forcément Matrix, et bien évidemment Dark City d'Alex Proyas, qui est sorti un an avant et qui a été totalement zappé à cause du succès des Wachowski, ou encore on peut penser également à Memento, adaptation par la dualité, ou encore Existence, et d'ailleurs Cronenberg le dit lui-même, en fait il le considère comme son film dickien. Voilà.
Et Truman Show aussi, parce que très peu de rapport avec Le Temps désarticulé.
C'est vrai. Mais du coup, ça montre en fait que les fondamentaux d'Ikea, en fait, se retrouvent au-delà de simples adaptations officielles. Et on va faire donc une petite pause musicale. Alors, on revient donc juste après. On va revenir un peu plus sur le terme d'Ikien au cinéma. Avec donc un morceau issu du film Total Recall, un morceau de Jerry Goldsmith. Et voilà, c'était un morceau de Jerry Goldsmith pour Total Recall, donc qui est donc une adaptation
We Can Remember It For You Wholesale. Voilà. Souvenirs à vendre.
C'est ça, souvenirs à vendre. Voilà, je cherchais le terme. Donc, film de Paul Verhoeven et avec Schwarzenegger. Et on ressent déjà par la musique le côté action qui reste omniprésent à travers l'œuvre. Ouais. Très très épique, contrairement à la nouvelle version Mémoire Programmée de Alan Bisman. Voilà.
Qui est très nul.
Ah, c'est. En fait, il y a deux films qui m'ont foutu la nausée au cinéma. Irréversible.
Évidemment.
Donc, évidemment, hein, avec le, notamment, pas seulement par la scène malaisante, mais aussi surtout par les ultrasons.
Les travelling qui se baladent.
Mais dans Total Recall, cette séquence où donc Colin Farrell se fout le truc sur le crâne et donc va rebooter sa mémoire, on va dire ça comme ça, où la caméra fait des 360 avec des zooms, je peux vous dire qu'au cinéma ça fait mal à la gueule.
Ouais, c'est énorme.
Et c'est absolument dégueulasse de la part d'un réalisateur de faire ça.
C'est dégueulasse. Enfin, la caméra tremble autant que dans un film de guerre, quoi. Oui. Donc, c'est irregardable. Et ça mérite pas d'être vu.
C'est ça. Enfin, bref, donc on va revenir plus sur. Qu'est-ce que Kiddick au cinéma? Qu'est-ce que le terme Dickien au cinéma? Comment le définir même? Déjà, pourquoi cette influence si vaste? Il y a aussi, je pense à mon sens, la justesse de la vision de l'auteur sur le monde.
Ouais, alors au-delà de la vision sur le monde, je pense que le cinéma se reconnaît dans ce que Dick produit. Parce que le cinéma produit des illusions, des images qu'on sait être fausses, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de croire vraies.
Ouais.
Et c'est très exactement ce que Dick fait dans de très nombreux récits, c'est des gens qui croient à leur délire et qui imposent leur délire au reste du monde. Dans la nouvelle d'ailleurs « Souvenirs à vendre », on implante des souvenirs dans le personnage de Douglas, et le type qui les lui implante y croit. Si bien qu'on ne sait plus si ces souvenirs-là sont vraiment des souvenirs qui remontent à la surface, ou si la croyance d'un homme en ses souvenirs arrive à contaminer d'une certaine manière les autres. Et on ne sait plus du tout à quoi ça.
Comment croire si, par exemple, surtout que le film reste assez intelligent là-dessus, sur le fait de comment croire, en fait, le premier extrait vidéo où on voit donc Schwarzenegger qui lui dit à son passé, oui, en fait, il faut que tu retournes sur Mars pour ça. Et après, il y a le deuxième extrait vidéo pour dire, non, mais en fait, je t'ai bien eu parce qu'en fait, je fais partie de la corporation et en fait, j'étais infiltré.
Ouais.
Voilà.
Donc effectivement, il y a le cinéma en lui-même peut-être, dans sa manière de fonctionner, est très Dickien.
Oui.
Ensuite, Dick, oui, il propose une interrogation, il propose trois grandes interrogations. La première, c'est évidemment, qu'est-ce que le réel? Matrix la restitue très bien.
Oui.
Genre, on y vient, sauf que Matrix transforme cela en problème métaphysique.
C'est ça.
Vraiment, quel est notre rapport au réel? C'est les sens, mais les sens sont trompeurs. Donc, quel est vraiment le réel qu'on n'atteint pas? Quelle est la réalité derrière la réalité? Or, pour Dick, on l'a dit, de toute façon, c'est un type qui a eu des problèmes psychologiques, c'est un type qui a été suivi toute sa vie, c'est un type qui a eu des hallucinations et des crises psychotiques. La question « qu'est-ce que le réel ?», c'est une question qui est pour lui d'abord psychiatrique. Comment est-ce que je suis assuré de ne pas délirer le réel?
Oui.
Et en fait... Alors, on va dire, on peut rester raccord avec les faits, sauf qu'on a toujours une interprétation derrière les faits. On agit au quotidien, on est persuadé d'être libre et d'agir librement. Est-ce que ça, c'est pas un délire? On commence ici, vraiment, l'interrogation paranoïaque de Philip K. Dick sur le réel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière moi qui agit? Et cette question psychiatrique est aussi une question politique. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi qui décide à ma place? Qui m'impose le délire qui me coupe de la réalité. Et c'est ce qu'on voit dans toutes, enfin pas dans toutes ces nouvelles, mais dans toutes les nouvelles qui questionnent la réalité, c'est qui contrôle mon propre délire qui me sauve du réel que je ne veux pas voir.
Et surtout que forcément ça reflète aussi d'une certaine manière sa paranoïa, parce qu'après on voit toujours quand même, comment dire, soit des corporations, soit des hommes de l'ombre qui sont toujours derrière quelqu'un de grand dirigeant, voire même un peu une certaine, comment dire, dictature de mise en place.
Oui, c'est souvent des dictatures. Sa première nouvelle d'ailleurs, c'est l'histoire de la société qui vit sous terre pour se protéger de la guerre qui se poursuit, alors qu'en fait la guerre s'est arrêtée depuis très longtemps. Simplement, des gens sont payés pour créer de faux bulletins.
C'est ça, pour que les gens se tairent encore. Oui.
Pour que les gens se tairent, alors qu'on peut vivre très bien à la surface. Et même, ils font de faux anciens journaux pour transformer la réalité comme ils le souhaitent. C'est un roman qui est assez nul, mais dans Simulacre,
oui.
il y a un gouvernement mondial qui est situé en Allemagne, mais qui est dirigé par des androïdes et des acteurs. Le président est un androïde, sa femme, la première lady, est une actrice qui incarne le rôle, et tout le monde s'accroche à cette réalité-là, alors que ça fait 100 ans que le même couple est au pouvoir, ce qui est absurde. Et on a, alors là c'est encore plus délirant, on a un pianiste qui est persuadé de sentir très mauvais, d'avoir une odeur très désagréable, mais parce que la publicité lui a dit cela.
Ouais.
On a des insectes, ça sera très important quand on parlera de Total Recall, mais on a des insectes qui bourdonnent autour de nos têtes et qui, ouais, télépathiquement, nous font accepter des idées qui sont fausses. Enfin, c'est de la publicité. Mmh. Et on ne sait plus d'où viennent nos idées, on ne sait plus d'où viennent nos actes. Et le doute est là, quoi.
C'est vrai que tu parlais de qu'est-ce que le réel, mais aussi une des thématiques récurrentes chez Dick, c'est aussi qu'est-ce que l'homme. Et forcément, Blade Runner est la parfaite représentation de ceci.
Ouais, qu'il propose en opposant l'androïde à l'humain.
Voilà.
En disant, mais en fait, de plus en plus, l'androïde, l'homme est un androïde. L'homme est un androïde parce que quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Parce que le travail, la machine, la société nous réduisent à des rôles dans lesquels on est parfaitement interchangeable.
Mmh.
Et l'humain, bah, du coup, l'humain va y avoir un noyau, peu importe qu'il soit propre à un extraterrestre guerrier, à une machine ou un être humain, à partir du moment où il fait preuve de compassion, à partir du moment où il arrive à se mettre à la place de l'autre, il devient humain ou il manifeste l'humanité. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette idée que l'humanité n'est peut-être plus tout à fait le propre de l'humain. Et qu'il suffit plus d'être un homme ou une femme pour être humain. On peut très bien être un androïde sans le savoir.
C'est ça.
Donc la première menace, c'est nous-mêmes.
D'où la parfaite représentation dans Blade Runner, même si forcément le bouquin a plus de profondeur, parce qu'il va sur d'éléments un peu plus philosophiques, même d'une certaine manière, par rapport au film. C'est normal, c'est un roman, c'est beaucoup plus long. Un film, ce n'est qu'un condensé, en fait, d'une œuvre. Et dans le bouquin, d'ailleurs, en fait, Descartes a aussi une femme dans le livre, je veux dire, et en fait leur but principal, c'est de remplacer le mouton androïde qu'ils ont par un véritable mouton, parce qu'en fait c'est un signe d'une certaine manière de richesse et aussi de persévérance, en fait, pour garder le semblant d'humanité ou le semblant de faune qui reste sur la Terre, parce qu'en fait dans l'histoire, donc il y a eu une guerre nucléaire, la Terre n'est quasiment en ruine, en fait il n'y a quasiment plus rien, quasiment tous les humains ont migré sur Mars, ont fait une colonie sur Mars, et en fait en gros, la plupart des humains qui sont restés, en fait c'est les plus pauvres, c'est ceux qui ne peuvent pas aussi, qui ont subi des mutations, qui ne peuvent plus bouger, qui ont des problèmes, et d'autres en fait sont là aussi pour un peu réguler cette population, notamment par le biais donc de surveillance envers les androïdes qui ont été créés notamment par diverses entreprises, donc ce qu'on appelle les Blade Runner dans le bouquin, dont Descartes faisait partie. Et finalement lui, en fait, il va donc vouloir, sa motivation en fait d'arrêter de tuer ces androïdes du Nexus 6, c'est en fait ramasser la récolte d'argent pour en fait avoir un nouvel animal, un vrai animal de compagnie.
Un vrai animal, ouais, y a une vraie ambiance de fin du monde dans ce roman, c'est extrêmement sombre, c'est extrêmement pessimiste, et oui, il y a une véritable cruauté, mais qui se voit bien dans les films, c'est que le personnage de Descartes est cruel.
Oui.
Il est cruel avec...
Il tue, par exemple, le premier androïde qu'il tue, il le tue dans le dos.
Mais il les tue dans le dos, il les tue sans scrupule.
Ouais.
Rachel, il lui révèle sans prendre aucune pincette que c'est un androïde.
Mm-hmm.
Il est d'une cruauté monstrueuse, là où... J'ai oublié le nom du personnage, mais Rutger Hauer...
De Rutger Hauer, qui est beaucoup plus nuancé.
Beaucoup plus nuancé, il aime la poésie, c'est le seul à citer de la poésie autour de lui.
Et dans
quoi,
les bouquins, il n'y a pas de confrontation, c'est vraiment de l'exécution primaire. C'est beaucoup plus cru dans les bouquins que dans le film.
Ouais, alors moi, le dernier souvenir que j'ai de ce roman, c'est la scène avec le mouton.
Oui.
Et
parce que du coup, en fait, dans le bouquin, il y a un des androïdes, en fait. On suit également les trois androïdes, en fait, qui se sont échappés et, un peu comme dans le film, en fait, vont se retrouver chez quelqu'un, en fait, qui a un problème de déficience et en fait, vont montrer qu'ils n'ont pas du tout d'empathie. Ce qui va donc prouver qu'ils se sont plus des androïdes que des humains. Et en fait, donc, ils vont vouloir un peu aussi s'attaquer à Descartes. Et en fait, pour se venger de Descartes, ils vont balancer... Alors, non pas un mouton, il n'a pas réussi à avoir un mouton, mais une petite chèvre noire. Et en fait, ils vont la balancer depuis l'immeuble.
Ouais.
Voilà.
Et l'aspect religieux qui est totalement laissé de côté dans le film, heureusement.
Ça, c'est le problème de geek. Hein. La religion est omniprésente aussi dans la plupart de ces bouquins.
Mais c'est vrai qu'il y a cette opposition-là. Et le personnage de Rutger Hauer est très bien réussi de ce point de vue-là. Quoi. C'est vrai qu'il n'a aucune raison de le sauver, puisque de toute façon, il va mourir. Il a montré qu'il pouvait lui aussi se montrer cruel. Il a un objectif, c'est vivre plus longtemps. Et il est prêt à tout sacrifier à cet objectif.
Et parce que dans le film, ils ont... quelques mois à vivre en fait.
Ils ont
quelques semaines.
Ans.
4 ans, voyons.
Ils ont 4 ans. Donc là, il leur reste vraiment plus que quelques semaines, voire plus que quelques heures pour Rutger Hauer. Et c'est vrai que c'est un acte tout à fait gratuit de gentillesse que de laisser des cartes en vie et de laisser s'envoler la colombe.
Et forcément, on en parlait juste avant aussi, en termes de thématiques récurrentes, à part le réel, l'homme, il y a aussi donc Dieu. Et c'est là aussi, on peut avoir tout ce rapport, on va dire, avec... On va dire l'ambiguïté chez Dick, et notamment donc c'est l'idée maîtresse aussi qui charpente Philip K. Dick, donc ce que l'on peut qualifier de gnostique en fait, qui va au-delà des aspects sociaux. Donc qu'est-ce que la gnose chez Dick? En fait, on est vraiment sur un côté philosophique selon laquelle en fait il est possible de connaître les choses divines. Pour vulgariser un peu, parce que
pour
ça
vulgariser.
Va être très compliqué de tout nuancer.
Alors, les gnostiques croyaient aussi que la destination du monde était de s'autodétruire en libérant la lumière. Donc, on est quand même très proche de Dick qui invente que des univers qui s'effondrent.
Très pessimiste. On est proche de la fin de civilisation à peu près dans tout.
Quasiment dans tout. Et donc, c'est vrai que la religion, il oppose d'une certaine manière la religion qui pourrait être une manière d'avoir du pouvoir sur les autres. On voit ça très bien dans le guérisseur de cathédrale, où il y a deux visions du sacré, la vision qui est représentée par un livre de prophétie, qui annonce absolument tout ce qui va se passer sur la planète, et en lisant une prophétie qui nous concerne, malheureusement, on n'a pas d'autre choix quasiment, enfin en tout cas le personnage principal n'a pas d'autre choix que de la réaliser. Il la réalise volontairement, a priori, sauf que... Bah, très certainement, c'est le livre qui le fait agir. Mais ça, c'est le mauvais côté de la religion pour Dick. C'est le côté de la religion qui nous transforme en androïdes d'une certaine manière, qui nous transforme en fonction en vue d'un texte. En lien avec la compassion, ce qui l'intéresse plutôt, c'est la manière dont on peut accueillir l'autre en soi. C'est vraiment la compassion. Là, c'est vraiment une vertu chrétienne. C'est ce qui a horripilé. Le public de Dick pendant sa conférence à Metz, c'est que là il s'est révélé être un auteur chrétien et pas seulement marxiste et ça a un peu fait friser quoi. Mais oui, l'idée que on peut accueillir l'autre dans son propre monde, dans son propre délire, dans sa propre reconstruction du monde, sans vouloir le lui imposer, sans que ce soit fait pour des questions de pouvoir, et simplement se réunir comme dans une église, quoi. Une religion, c'est ce qui relie, faire un avec l'autre et voir le monde à travers son point de vue, ça, c'est être humain pour lui. Et c'est vrai que le religieux permet cela, et c'est toujours une fusion. La religion, c'est toujours une fusion.
J'irais même un rapport très ambigu, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que dans le bouquin de Blade Runner, Les androïdes réfléchissent de moutons électriques, il y a cette histoire avec notamment... toute la technologie que l'on voit, les télévisions, les modes de communication, et notamment sur cette espèce de nouvelle religion avec Mercer, qui est en fait un Jésus-Christ 2.0, ni plus ni moins. Et c'est toujours aussi ce que veut un peu représenter Dick, avec tous ces éléments, en fait... dans ces livres, il y a toujours quand même une religion, voire nouvelle, qui apparaît à chaque fois.
Dans cette religion, en fait, on a...
Que l'humain a besoin de cette religion, en fait.
Alors, c'est d'abord une religion pour... Alors, ce qui est étrange, c'est que c'est d'abord une religion pour les machines.
Oui.
Mais, alors, toute la question de savoir si le personnage principal est un humain ou une machine, parce que lui aussi, il adhère à cette religion. Mercer est une espèce de Christ, mais dans lequel on se projette. C'est... comme un film en 3D dans lequel on vit les choses à travers Mercer, à travers sa peau, à travers sa vision, et il monte une montagne. Alors, c'est très étrange, il monte une montagne et puis il y a une tortue, donc il la remet sur ses pattes. Et à la fin du roman, là aussi, de toute façon, c'est pas le plus important, le personnage de Descartes vit très exactement cette même scène. Et là, on est perdu. Est-ce que c'est
Mercer, voilà.
Est-ce que Mercer s'est incarné en lui comme le divin s'est incarné dans un corps humain? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une machine?
Est-ce que c'est un programme de Mercer, en fait? Voilà, c'est
ça. C'est un programme. Et donc, on ne sait, à la fin, on est laissé avec beaucoup plus de questions que de réponses, et on ne sait plus ce qu'on a lu. Est-ce que Mercer, c'est l'équivalent d'une télévision? Est-ce que c'est on va dire, une prévision? Est-ce que Descartes, depuis le début, est Dieu?
Oui, non, mais il y a toujours ces rapports très ambigus, ouais. En fait. C'est vraiment une espèce de trinité, en fait, entre la réalité, l'homme et forcément Dieu, ouais. Ce qui représente au-dessus la force divine. D'ailleurs, il a fait une trilogie divine à la fin de sa vie, ouais. Notamment avec Siva, l'invasion divine, ou encore la transmigration de Timothy Archer. Et ça montre aussi que Dick, en fait, se retrouve vraiment sur plusieurs visions, en fait. Il n'y a pas... toujours quelque chose où on est rarement en fait toujours dans quelque chose de toujours très calibré. C'est toujours quelque chose de très très différent dans ses œuvres.
Ça fuit partout.
Voilà.
Et c'est un problème si on veut adapter Dick au cinéma.
C'est ça aussi.
C'est impossible.
C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus en fait. C'est que tout ce que rapport notamment Dick avec le gnostique et qui va au-delà de ses aspects sociaux, c'est un élément incroyablement difficile à mettre en place dans le médium qu'est le cinéma, parce qu'en fait, comment tout définir à travers une œuvre cinématographique, que ce soit 1h30, 2h, 2h30, voire même 3h, c'est peut-être un rapport que l'on peut retrouver un petit peu plus facilement dans l'animation, je dirais, avec des auteurs qui travaillent extrêmement bien aussi sur qu'est-ce que le réel. Alors, on peut penser notamment à Ghost in the Shell, parce que l'auteur de la BD, scénariste, donc Masamune Shirai, n'a d'ailleurs jamais caché l'influence de Kiddick dans ses œuvres. Même encore, on peut penser forcément à Satoshi Kon avec son travail de réalité un peu plus sur Paprika que sur ses autres œuvres. Parce que, attention, je parle pas de Perfect Blue ou d'autres. Parce que là, on est sur quelque chose de différent.
Peut-être plus, c'est les derniers épisodes d'Evangelion.
Oui.
Où dans les derniers épisodes d'Evangelion, chacun se retrouve dans l'esprit de l'autre et se voit de la manière dont l'autre le voit. Oui. Donc en fait, la psyché de chacun des personnages se retrouve mêlée en une seule et chacun vit un peu, se vit tel qu'il est vu par les autres. Et là, on est totalement dans les fusions mystiques que connaît Dick.
Il y a un peu une certaine inversion des hiérarchies même, je dirais. Par exemple, le sacré en fait devient désuet, ou alors aux confins de la folie et de la paranoïa. Donc là, par exemple, c'est d'ailleurs quelque chose que voulait faire Jeff Nichols avec Take Shelter. Il le disait en fait, la nouvelle, le constructeur en fait lui a inspiré pour faire ce film, et forcément une des œuvres majeures de Kiddick dans les années 70, c'était donc qui a été adapté par Scanner Darkly, c'est, j'ai oublié le terme,
Substance Mort,
voilà. Qui forcément a un travail sur le travail de la réalité, le questionnement en fait de qu'est-ce qu'on est, quel est notre but dans la vie. Et Scanner Darkly, en fait, notamment Linklater, va travailler en fait sur un système de mise en scène un peu plus différent des autres, c'est-à-dire la rotoscopie. La rotoscopie, qu'est-ce que c'est au cinéma? Donc, c'est en fait le fait de filmer des acteurs et de les retravailler en fait façon dessin à l'image.
De dessiner, sur la pellicule.
Voilà. Et donc, en fait, de retravailler un peu dessus et donc de faciliter un peu plus les effets visuels à travers l'image.
Alors, on reconnaît à la fois les visages des acteurs, on reconnaît la réalité, mais en même temps, c'est troublé, donc on ne sait plus exactement ce qu'on regarde.
Notamment le personnage de Keanu Reeves qui, notamment, porte une espèce de combinaison qui lui permet de changer d'apparence constamment.
Et du coup d'être invisible d'une certaine manière.
C'est ça.
Parce que du coup on ne peut plus fixer ses traits. Et là aussi c'est une crise psychotique parce c'est un agent des stupes qui est infiltré, donc il traîne dans un squat avec des drogués et il se retrouve à devoir se surveiller lui-même.
Oui. C'est ça. Il n'y a pas d'autre d'explication à mettre dessus en fait. Et d'ailleurs c'est une des particularités de Linklater aussi, c'est de quasiment jouer, pas sur les quatrièmes murs, mais en fait vraiment travailler sur le côté intra et extra-diégétique. Notamment, par exemple, on voit un personnage en fait imaginer la serveuse nue, donc ça part à travers une bulle. Donc ça travaille encore un peu plus sur l'aspect rotoscopie, vraiment revenir un peu plus sur un côté quasiment BDS en fait du film.
Oui, l'avantage de la rotoscopie, c'est que ça permet de mettre sur les acteurs, sur le réel, les hallucinations, ce qu'ils voient.
C'est ça.
Ce sont beaucoup de drogués, beaucoup d'hallucinations. Ça s'ouvre d'ailleurs sur un homme qui est persuadé d'avoir des insectes sur le corps, donc on les voit sauter, on le voit les mettre dans une jarre et voir ensuite que la jarre est vide. Enfin, il y a un côté irréel.
Et avec son pote trafiquant d'armes, d'ailleurs, excellent rôle de la part de Robert Downey Jr. qui était comme un poisson dans l'eau. Mais voilà, pour revenir un peu plus sur Kiddick, avant de terminer notre deuxième partie dessus, l'une des particularités fondamentales de Kiddick et la manière de le représenter au cinéma, pas seulement par sa philosophie, mais aussi par l'ensemble, l'univers, c'est forcément par ses décors, c'est de faire un univers totalement dystopien, en fait, où le futur est à la fois dépressif et sombre. Mmh. C'est une chose qu'a réussi à faire Ridley Scott, en fait, dès la première adaptation de Kiddick au cinéma. Et on le voit aussi dans pas mal d'autres films, notamment en termes d'influence par Dark City. Et c'est vrai que ça, c'est juste un élément de décor. Mais après, on peut retrouver forcément plein d'éléments qui sont extrêmement visibles à travers différentes variations cinématographiques, notamment par le transhumanisme et même la mutilation. Je pense notamment à la greffe des yeux dans Minority Report. Mmh. C'est quelque chose en fait, qui permet de montrer une certaine manière en fait, qu'il y a une fuite et une certaine volonté de combattre l'autorité. Alors par exemple la greffe des yeux dans Minority Report, pourquoi le personnage de Tom Cruise fait cela? En fait c'est pour éviter les caméras de surveillance.
C'est parce que je pense que c'est par les yeux qu'on est capté.
C'est ça.
Et donc on peut savoir où il est, les publicités repèrent
d'ailleurs,
les gens.
D'ailleurs séquence très intelligente de la part de Spielberg en fait, où quand il passe dans un centre commercial, d'ailleurs chose très intéressante parce que pour du Kiddick en fait c'est un film qui se déroule la très grande majeure partie du temps en plein jour. Donc on n'a pas un aspect très sombre de ville crasse et compagnie.
Non,
on le
propre.
Voit quand même la crasse de la ville, mais par exemple en fait, voilà, il y a quand même une certaine manière, ça reste propre, mais on voit quand même que il y a des éléments de décor en fait où le blanc bouffe tous les éléments de décor en fait. C'est fait exprès pour vraiment qu'on se concentre vraiment sur le peu d'éléments de couleur que l'on a à l'image en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de teint bleuté aussi dans ce film.
Ouais. Et je pense que c'est aussi parce que notre vision du futur et du futur inquiétant a changé. Dick a écrit beaucoup dans les années 50-60, il y avait encore la guerre contre l'URSS, il y avait la peur d'un hiver nucléaire.
Un côté très industriel encore aussi, ça se voit dans Blade Runner.
Il y a un
retour de l'industriel même. On est presque dans un retour de la révolution industrielle.
Et d'un délabrement absolu. Quoi. On avait vraiment peur d'une destruction totale de la civilisation.
Presque rétro-futuriste en fait.
Tandis qu'aujourd'hui, ce dont on a peur, c'est l'hygiénisme, c'est des corps qui sont plus robotisés, c'est la propension à hygiéniser les centres-villes, à ce que tout soit propre, clean, presque plus humain.
C'est ça.
Donc, on a changé notre vision du futur. Et je ne sais plus ce qu'on voulait dire avec tout ça. On en était où?
On en était, en fait, sur le côté dystopien, en fait, et notamment sur la façon dont certaines technologies donc, sont là pour, en fait, pour fuir l'autorité.
Oui, voilà. Il a une très, très grande peur de l'autorité, justement, parce que l'autorité arrive à nous faire agir à l'intérieur de nous. Les normes sociales, la publicité, les journaux. Il a une très grande peur du contrôle mental. Et dans une de ses premières conférences de 72, Humain contre Android, il dit en fait ce qui va nous sauver, c'est la petite délinquance. Quoi.
Ouais.
Ce sont ceux qui ne lisent plus les journaux, ce sont ceux qui veulent juste accomplir leur propre petit plaisir personnel, ce sont ceux qui ne suivent pas les lois, parce que eux, ben, comme ils n'écoutent rien, de toute façon, on ne pourra pas les transformer en Android d'une certaine manière.
Ouais.
C'est un texte assez drôle et vraiment, vraiment libertaire, quoi, vraiment anarchiste.
Ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai. Alors pour le coup, donc, on va faire une petite pause BO, donc issue du film Truman Show, un morceau de Philip Glass. We'll be right back. Et voilà, donc c'était un extrait issu du Truman Show, film qui est très très loin de ce qu'a fait Kiddick à l'écrit, mais qui pourtant a tellement d'idées qui vient de cet auteur.
Ouais. Les univers de poche. Mm-hmm. D'ailleurs, il est dans un petit univers de
ouais,
poche.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est un dôme, hein, en fait. Ouais, voilà, c'est une bulle. C'est le côté forcément surveillance, paranoïa constante.
Ouais.
Et l'idée qu'il y a un grand monsieur au-dessus qui surveille tout, quoi.
Qui surveille tout, qui est,
qui est campé par Hélaris, mais qui en fait est juste un représentant d'émissions de télévision.
Ouais. Et à la base, le film aurait dû être beaucoup plus sombre et cynique. Et
oui,
c'est l'arrivée,
Jim Carrey qui a donné un côté un peu plus
léger,
léger ouais,
à la
c'est
chose.
Ça.
Donc je pense qu'il aurait été encore plus dickien.
Il y a de très très fortes chances, ouais. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu le même aspect culte, malheureusement aussi.
Il aurait moins bien marché.
Bah, je pense, oui. Bah, qui dit que les résultats chez Kiddick, ça ne marche pas. Parce que si on parle de Blade Runner, si on parle de Total Recall, surtout de la part de Blade Runner à la base a été un four total.
Hein. Un échec absolu.
Ça... La productrice d'ailleurs a eu extrêmement mal au cœur. elle le dit elle-même encore dans pas mal d'interviews. Hein, que ça l'a fait extrêmement chier que ce film ne marche pas. Parce qu'elle y croyait vraiment à fond. Elle a laissé carte blanche à Ridley Scott pour faire ce projet. Qui lui sortait véritablement, c'était vraiment son premier projet hollywoodien,
américain,
parce qu'il avait déjà fait Alien, mais il l'avait fait en Angleterre. Là, il était avec des techniciens américains qui ne voulaient pas bosser comme lui.
Qui ne marchait pas de la même manière, donc c'est un enfer, effectivement.
C'était complexe.
Mais je pense que toute l'équipe, d'une certaine manière, a forcément gardé, que ce soit les producteurs, que ce soit les gens de l'équipe, les gens qui ont fait les effets spéciaux, etc. Je pense que tous, ils ont gardé une expérience... Et peut-être un aspect dickien qu'ils auraient pu mettre dans d'autres films. En tout cas, on voit que malgré l'échec du film, la chose a essaimé, quoi. Parce que
De toute manière, ça a été une œuvre matrice, en fait, que ce soit dans le cinéma de science-fiction, mais aussi dans la représentation, en fait, de ce que l'on peut faire de Kiddick au cinéma. Alors, même si forcément, la plupart des autres œuvres n'ont pas été particulièrement abouties, on voit quand même que beaucoup de films ont travaillé, ont voulu représenter le mieux l'univers de Philip Kiddick. Et il y a... On va faire un petit tour de table dessus, finalement, quel film représente en certaines parties le mieux de Kiddick au cinéma. Toi, tu voulais parler de Total Recall, notamment.
Ouais, parce que Total Recall, la nouvelle, est vraiment très minimale. Il n'y a absolument rien d'a priori très exploitable pour le cinéma.
Ouais.
Mais je pense que le scénariste était un fan absolu et on voit énormément d'éléments des autres nouvelles, des autres récits, et c'est vraiment très dickien, quoi. C'est dickien parce qu'on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Et quand on y prête attention,
on est perdu.
On est totalement perdu. C'est-à-dire que si tout ce qui se passe à partir du moment où il se fait implanter des souvenirs est vrai, c'est véritablement un agent secret, etc. Bah, ça veut dire que un vendeur a pu prédire ce qu'allait être la vie de Douglas Quaid. Or, qu'est-ce qu'une vie qui peut être prédite par un vendeur ? C'est une vie qui est totalement façonné par la publicité. Donc, à ce moment-là, Douglas Quaid ne s'appartient pas. Soit c'est un rêve, mais au sein de ce rêve, il y a quand même un psychiatre qui arrive et qui dit, ouais, attention, vous êtes en crise psychotique, si vous en sortez pas, les murs de votre réalité vont exploser, vous allez croire être le meilleur copain du type qui essaye de vous tuer, et c'est très exactement ce qui arrive. Donc, si c'est un rêve, Douglas Quaid est mort. Et on peut croire, alors là c'est le rêve hollywoodien, que à la fois c'est un rêve et que c'est réel, et on peut accepter que tout est joyeux, mais à ce moment-là on est soi-même victime d'une grande machine hollywoodienne qui nous vend des rêves et qui projette des émotions en nous et qui nous impose finalement ce qu'on vit et ce qu'on voit. Et c'est extraordinairement dickien de ce point de vue-là, et je pense que c'est la meilleure réussite au cinéma, mais toi tu penses que peut-être Minority Report est mieux ?
Je trouve que Minority Report, en fait, ce que j'aime bien à travers ce film, et notamment sur le rapport avec Philip Kiddick, enfin le rapport avec la façon de représenter Kiddick au cinéma, c'est forcément c'est la volonté d'ancrer en fait d'une certaine manière dans la réalité. Chez Kiddick, Minority Report en fait a une temporalité différente. Le programme Precog, donc dans le film, tire la majeure partie de l'histoire. Donc c'est un programme en fait avec notamment des personnes atteintes de précognition, voilà. Donc ils peuvent voir et prédire ce qui va se passer dans le futur. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est que à travers ceci, il y a une nouvelle police donc qui intervient et qui arrête les potentiels crimes avant qu'ils ne soient commis. Dans le film de Spielberg, c'est juste les simples crimes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le bouquin, en fait, c'est vraiment tous les délits.
Ouais, et puis ce sont des mutants qui sont absolument incapables de vivre. Donc ils ont développé ce don-là au détriment d'absolument tout ce qui fait un être humain, et il prévoit, il voit les choses, absolument tout, il voit absolument tout ce qui peut arriver. Simplement, comme là, on est le personnage principal est le chef de la police, il ne s'intéresse qu'aux prévisions de crime.
C'est ça. Jusqu'au moment où, d'ailleurs, comme dans le film, il découvre en fait que ça va être lui va commettre un crime qui, d'ailleurs, sur une personne qu'il ne connaît absolument pas.
Qu'il ne connaît pas.
Ouais. Voilà. Et donc forcément Spielberg lui va travailler un petit peu plus différemment sur le personnage, va donner un peu plus de profondeur, notamment parce que je pense que bon, Tom Cruise avait demandé, exigé, je pense que son personnage soit un petit peu plus
actif
travaillé
que
et
le
actif.
Personnage de la nouvelle.
Exactement.
Ouais, un petit bonhomme à pipe.
Voilà, ce que je trouve très intéressant à travers tout ce film notamment, c'est son rapport et son nombre d'idées, d'éléments technologiques qui finalement en fait sont totalement ancrés dans notre réalité actuelle.
Ah oui, c'était quasiment de la précognition qu'il
c'est
a
ça,
fait, quoi.
Parce que finalement, on est par exemple la société de surveillance, on l'a actuellement. Il y a des passages, notamment si vous allez dans certains aéroports, si vous allez en Chine, il y a des endroits en fait où il y a la reconnaissance faciale. Donc là, la reconnaissance visuelle à travers les yeux, bon, c'est dans le bouquin, mais la reconnaissance faciale, on y est presque, quoi.
Ouais.
Donc c'est très très fort, et aussi même par exemple l'idée des tablettes, l'idée des écrans tactiles, c'est une chose que qui est mis en place dans le film et qui est maintenant, totalement maintenant dans la réalité. Ouais. Donc ça, c'est un élément qui peut encore rapprocher un peu notre paranoïa sur ce que va être la société plus tard.
On vit de toute façon dans le monde dystopique que les auteurs de science-fiction nous ont fait. Mais ce qui est passionnant par contre dans le film, c'est la fin où ils ont été obligés de faire très différemment que dans la nouvelle, ce ne serait pas passé, ça aurait été absolument inintéressant. Et là, l'idée des meurtres était... Je ne sais pas si on peut trop.
On peut spoiler un petit peu le film. Le film est sorti en 2002.
C'est vrai. À partir du moment où il y a des prédictions, il y a des images de meurtres, et il y a des, on va dire, comme des répliques, c'est-à-dire des revisionnages de la part de ces mutants précog, des crimes. Et ça peut être utilisé par n'importe qui pour tuer en toute impunité, puisque ces meurtres réels qui vont avoir que quelques différences avec les meurtres prévus vont être pris comme des répliques, vont être pris comme...
Et du coup, dans l'histoire du film, en fait, il y a une machination sur le fait qu'en fait, Tom Cruise a été pris au piège, en fait, pour être éliminé de ce programme, en fait, pour que le fondateur du programme Precog, en fait, ait tous les pouvoirs pour enfin lancer ce programme à l'échelle nationale. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est simplifié dans le film. C'est vrai que dans le bouquin, c'est un petit peu différent.
C'est très différent dans le bouquin.
mais comme dans beaucoup d'autres. J'ai envie de terminer aussi cette émission en fait, avec un autre exemple, parce que c'est un film qui est absolument pas du tout une adaptation de Kiddick, mais c'est Dark City. J'en ai parlé un petit peu d'Alex Proyas. Parce que autant on parlait de l'atmosphère oppressante de Blade Runner, qui est magnifiée notamment par la musique de Vangelis, ne l'oublions pas. Dark City a une atmosphère totalement sombre, quasiment la totalité du film est tournée la nuit. Ça reprend le principe avec les villes verticales. On a moins le côté industriel de Blade Runner, forcément. On a un côté très bétonné, en fait, constant.
Il y a un côté vieux quartier de New York.
C'est ça. Un vieux quartier de New York, mais en fait, qui est tout le temps en alternance. Parce qu'en fait, c'est ça la force aussi du film. C'est que ça travaille beaucoup également sur le principe du souvenir perdu, de la dualité. Le personnage principal, au départ, ne sait plus qui il est. Donc, on est un peu sur une idée de page blanche. Et c'est vrai que le principe même de paranoïa qui ancré totalement sur le protagoniste, parce qu'en fait il est poursuivi par des personnages inquiétants qui en fait arrivent à reconfigurer la ville, à travailler les murs, à retravailler en fait des nouvelles alternatives, des nouvelles voies pour le poursuivre. Ça montre en fait que le personnage en fait il est totalement prisonnier d'un monde qui l'oppresse, et j'ai l'impression qu'en fait c'est une facilité, on va dire, d'écriture que l'on peut retrouver dans tout Dick.
C'est pas tellement une facilité d'écriture, c'est-à-dire que tous les mauvais films tirés de Philip K. Dick se retrouvent en mieux dans ce film-là.
Oui.
Il y a l'univers Bulle qu'on peut voir dans beaucoup de ses nouvelles. Il y a les reconfigurations de l'espace, des souvenirs des gens, de leur vie qu'on voit dans le bureau d'ajustement. Il y a Paycheck. Je veux dire, le personnage qui a perdu la mémoire, comment est-ce qu'il arrive à comprendre ce qui se passe? C'est parce qu'il a différents objets et qu'il essaie de suivre la trace, il essaie de suivre la piste qu'il a laissée derrière lui. Donc non, c'est certainement la meilleure adaptation non officielle de l'univers même de Philip K. Dick et de ce que Dick a pu faire en termes de nouvelles, en termes d'écriture.
Exactement, et d'ailleurs du coup on vous le conseille terriblement. Pour le coup on va s'arrêter là-dessus, on se termine avec un petit morceau tout petit morceau, donc le générique de fin de Blade Runner de Ridley Scott. Merci à toi Cyril pour cette émission, merci Pierre à la régie, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde.